lire. J'aime pas 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 lire. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canus 102.2 FM et vous êtes dans votre programme J'aime pas lire, comme le générique l'indique. Ce soir, nous sommes en super compagnie, en compagnie de l'artiste compositrice, chanteuse, interprète, dessinatrice, on va tout évoquer, Wendy Martinez, bienvenue.
Merci de l'invitation.
C'est avec vraiment un grand plaisir que nous te recevons pour discuter de lecture, pour lire à voix haute, pour écouter tes choix musicaux et évoquer pourquoi ces choix et peut-être que nous comprendrons mieux quel artiste tu es. En tout cas, j'invite fortement nos auditrices, nos auditeurs, d'ores et déjà à noter ce nom et à vous renseigner sur cette belle musique que nous lit Wendy Martinez. Bientôt un nouvel album d'ailleurs.
L'année prochaine, ouais, on est en train de bosser dessus. Là, je suis dans le mix à fond, mais je suis très contente d'avoir pris cette petite pause d'interview avec toi.
Force pour le mix.
Merci.
Force pour le nouvel album.
Merci.
Tu nous viens avec des propositions de lecture vraiment chouettes. Des propositions de musique, super, j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas, qui m'ont emballé dans le désordre Bell Hooks, une autrice états-unienne, un groupe de musiciennes qui s'appelle La Loose, j'avais jamais entendu ça, c'est génial, et GB, l'an 01, qui faisait partie seulement de mon paysage de culture générale, et je connaîtrais mieux grâce à toi. Est-ce que tu veux entamer la lecture de cette nouvelle que tu as sous les yeux ?
Mais tout à fait, on peut faire ça.
Dostoïevski.
Donc quand tu m'as demandé des choix de lecture, j'ai pensé à cette petite nouvelle que j'avais écoutée en livre audio, figure-toi, sur YouTube, il y a quelque temps déjà. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'à l'intérieur, il y a une sorte d'utopie qui est décrite complètement dingue, sachant que ça a été écrit en 1878 par l'ami Dostoïevski, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et là, on est sur le rêve d'un homme qui voudrait se suicider et au moment de se suicider, finalement, il tombe dans un grand sommeil et il fait un rêve très étrange où il imagine qu'il se tue et une sorte d'être un peu étrange vient le sortir de son tombeau et l'emmène dans ses bras à travers la galaxie. Donc moi, j'adore ça. Je ne savais pas du tout que Dostoïevski écrivait des trucs fantastiques comme ça. Et il parle d'une sorte de théorie qui a été étudiée plus tard par des physiciens, qui selon laquelle, si le monde est vraiment infini, au bout d'un moment, tout se reproduit et on peut même retomber sur la Terre, le Soleil et voir nos clones. Donc c'est marrant. Donc je voudrais juste vous lire un petit passage où il décrit cette utopie qui m'a beaucoup plu.
On t'écoute.
Vous comprenez encore une fois, et même si ce n'était qu'un rêve, mais la sensation d'amour de ces hommes innocents et beaux reste en moi à jamais, et je sens que leur amour s'épanche en moi, et aujourd'hui encore de là-bas. Je compris très vite que leur savoir, parfait, se nourrissait d'autres intuitions que les nôtres sur Terre, et que leurs aspirations aussi étaient toutes différentes. Ils ne désiraient rien et ils étaient en repos. Ils n'éprouvaient pas cette aspiration à connaître la vie que nous éprouvons nous-mêmes, parce que leur vie était toute plénitude. Mais leur savoir était plus profond et plus haut que celui de notre science. Car notre science cherche à expliquer la vie, elle cherche à la saisir par la raison pour apprendre à vivre aux autres. Eux, même sans la science, ils savaient comment ils devaient vivre, et cela je le compris. Mais je fus incapable de comprendre en quoi leur connaissance consistait. Ils me montraient leurs arbres, et j'étais incapable de comprendre le degré d'amour avec lequel ils les regardaient, comme s'ils parlaient avec des êtres qui leur étaient semblables. Et vous savez, je ne me tromperai pas peut-être si je dis qu'ils conversaient. Oui, ils avaient trouvé leur langue et je suis convaincue que les arbres les comprenaient. Ainsi regardaient-ils toute la nature, les animaux qui vivaient avec eux dans la concorde, ne les attaquaient pas et les aimaient, vaincus par leur amour. Ils me montraient les étoiles et ils me parlaient d'elles à propos de quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais je suis convaincue que d'une façon ou d'une autre, ils communiquaient avec les étoiles du ciel, et pas seulement par la pensée, non, par je ne sais quel moyen vivant. Ils étaient vifs et joyeux comme des enfants. Ils vagabondaient dans leurs bois, dans leurs belles forêts, chantaient leurs belles chansons, se nourrissaient de nourriture légère, des fruits de leurs arbres, du miel de leurs forêts et du lait de leurs animaux qui les aimaient. Pour leurs vêtements et pour leur nourriture, ils ne travaillaient qu'un peu et sans fatigue. Ils avaient de l'amour et des enfants naissaient. Ils fêtaient les enfants qui paraissaient chez eux comme de nouveaux acteurs de leur béatitude. Il n'y avait entre eux jamais de dispute, jamais de jalousie. Ils ne savaient même pas ce que cela voulait dire. Leurs enfants étaient les enfants de tous, car ils composaient tous une grande famille. Ils n'avaient presque pas du tout de maladie, même s'il y avait une mort. Mais leurs vieillards mouraient paisiblement, comme s'ils s'endormaient, entourés de gens qui leur disaient adieu en les bénissant, souriant et accompagnés eux-mêmes par leur sourire lumineux. Je n'ai vu avec cela ni larmes ni douleurs. Ce n'était qu'un amour comme multiplié jusqu'à l'extase, mais une extase paisible, pleine, contemplative. Ils n'avaient pas de temple, mais ils avaient une sorte d'union concrète, vivante et ininterrompue avec le tout de l'univers. Ils n'avaient pas de foi, mais ils avaient une ferme connaissance qu'au moment où leur joie terrestre s'emplirait jusqu'aux limites de la nature terrestre, ce serait alors l'heure pour eux, vivants et morts, d'un accroissement encore plus fort de leur contact avec le tout de l'univers. Ils attendaient cet instant avec joie, mais sans hâte, sans qu'il les fît souffrir, comme s'ils le possédaient déjà dans les pressentiments de leur cœur dont ils se faisaient part. Le soir, avant d'aller dormir, ils aimaient composer des chœurs harmonieux et puissants. Dans ces chants, ils traduisaient toutes les sensations que leur avait données le jour qui s'achevait. Ils lui rendaient gloire et lui faisaient leurs adieux. Ils rendaient gloire à la nature, à la terre, à la mer, aux forêts. Ils aimaient composer des chansons les uns sur les autres et se couvraient de louanges comme des enfants. C'étaient les chansons les plus simples, mais elles coulaient du cœur et pénétraient les cœurs. Et ce n'était pas que pour les chansons, non, semble-t-il. C'était toute leur vie qu'ils ne passaient qu'à une chose, à s'admirer les uns les autres. Ils étaient comme amoureux les uns des autres, d'un amour total, général.
Magnifique.
Ah là là.
Oh, quel texte.
C'est magnifique. Il faut préciser que ça ne finit pas en utopie. Au final, le voyageur de l'espace les corrompt et les initie au mensonge et au mal. Mais voilà, j'avais envie juste de garder cette petite belle verte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Oui.
Voilà.
Ça fait envie.
Ouais.
On peut partir d'ici.
Mais carrément, on y va. Ouvrons la porte.
Après cette belle lecture, sur quoi je vais rebondir ? Gandhar contre les hommes-machines.
Mais génial.
Une forme d'utopie génial. Contrariée également. Un texte de Jean-Pierre Andrevon, un auteur français qu'on a déjà pu évoquer ici.
Et il faut voir le dessin animé.
Et voilà, qui a été adapté en dessin animé dans les années 80 par René Laloux et Philippe Casa au dessin. Et ce roman a fait figure d'initiation à la science-fiction pour moi. Ce n'est pas mon premier contact avec la science-fiction, mais c'est le premier qui m'est vraiment fait sauter de joie. Voilà, un extrait de Gandhar contre les hommes-machines. Au temps où, quelques milliers d'années auparavant, la science gandharienne s'était tournée tout entière vers les mutations qu'autrent les. Autant de cette folie où l'on avait, de manière irréversible, rendu gros ceux qui étaient petits, et petits ceux qui étaient gros, les animaux et les végétaux, n'avaient pas été les seuls à faire les frais des expériences. Mais rien de ce qui avait été tenté sur les hommes en matière de spécialisation poussée, ce qui avait été le mot d'ordre de l'époque, n'avait eu d'heureuse suite. Trop de monstres étaient sortis des cuves radiantes, des formes viables et stables qui avaient fait souche. Tels étaient les transformés, qui vivaient en tribus, un peu parias, un peu volontaires exilés, loin, en bordure des terrains habités de Gandhar. Les expériences sur les humains étaient depuis longtemps abandonnées, mais les transformés restaient comme la honte secrète de l'heureux royaume. Ceux-ci étaient des hommes tortues, et en une longue file, ils se hâtaient avec lenteur, portant comme une plaie leur maison sur leur dos. Sylvain Lanvert longea la colonne, la remontant en sens inverse de sa marche. « Parlez !» disait le chevalier. « Vous et moi, parlez ! Qui savoir parler ?» Car beaucoup de transformés avaient perdu l'usage du langage humain en même temps que leur forme. Enfin l'un d'eux, ou l'une d'elles, s'arrêta. Sylvain se sentit soupesé par un œil rond et vif, enfoui sous une arcade rocheuse. « Parlez ? » dit-il. « Oh, homme !» articula la pitoyable créature. C'était un souffle issu d'une caverne profonde, une ombre de voix rocailleuse, qui était comme l'écho d'un tonnerre lointain. Sylvain se pencha tout près du bec corné, et ses yeux rieurs se cernèrent d'un fin réseau de rides. « Homme !» répéta-t-il sur un ton triste et sourd. « Homme, ami de vous, homme perdu, tombé du ciel !» Il tenta de mimer son aventure, mais abandonna vite. « Autres hommes comme moi, être où ?»« Homme !» Le mot roula dans la gorge du transformé, comme s'il portait la signification d'un indicible cataclysme. L'haleine fade et forte de l'homme tortue frappa Sylvain en plein visage, mais il ne scia pas. Homme parti, mort. Le chevalier sursauta. Mort ? Lança-t-il. Homme mort, Rostul mort, gronda la lourde créature. Rostul partir. Rostul partir ? Murmura le chevalier, conscient à nouveau du piétinement sourd des créatures en marche. Interminablement, les hommes tortues défilaient, et Sylvain réalisa pour la première fois qu'il se dirigeait droit vers l'ouest. C'était l'indéniable réalité, les hommes tortues fuyaient, si lentes que paraissait leur course pesante, et ils refluaient vers le centre de Gandhar. Mais pourquoi homme et Rostul partir ? Interrogea le chevalier. Pourquoi mort ? Qui tuer ? Il y eut un silence, puis le monstre articula péniblement. « Venir, venir. Mais quoi ? Mais qui ? Venir, homme, machine.
Mmh, » Ah, j'adore.
Je vous laisserai découvrir génial, la suite.
Génial, génial. Magnifique.
On écoute de la musique ?
Ça marche.
Alors, un de tes premiers choix musicaux, le premier sur ta liste, je l'ai respecté, car il m'a semblé important. The Doors, The Crystal Ship. Let's go.
You slipped into unconsciousness. I'd like to have another kiss. Another flashing.
merci Isabelle.
Merci à toi Wendy.
Comme je disais en coulisses, c'est vraiment un de mes albums préférés au monde, le premier album des Doors. Je l'adore, je le trouve parfait en production et en émotion et en texte et en, voilà, en jeu, en instrumentation, je trouve ça incroyable.
Super, ouais, je l'adore aussi, ça m'a beaucoup marqué les Doors. Beaucoup. L'alliance, c'est ce qu'on trouve peu ou prou dans ton œuvre musicale, l'alliance de l'énergie psychédélique du rock, des mots, des idées.
Ah bah j'aimerais bien, écoute.
Bah ouais.
En plus, c'est marrant parce que chez eux, on sent aussi une influence du jazz et de la musique classique. Et je trouve ça hyper classe chez eux. Enfin, en tout cas, c'est pas présent dans mon œuvre, mais il y a vraiment une sorte de mélange qui se fait qui est assez impressionnant.
On aime les mélanges. Tu nous as proposé un texte de ta composition.
Bah ouais, parce que comme t'as parlé d'être mutant, ça m'a fait penser. Bon, et voilà, quand tu m'as demandé si j'avais aussi des textes à moi, j'ai sorti un peu mon vieux carnet de petites poésies de l'année, n'est-ce pas ? Des choses toutes fraîches. Et il y a quelque chose que j'ai écrit après avoir fait, je crois, notre traditionnel 31 des copines. Je dis des copines, il y a aussi des mecs, mais on est une grande bande de meufs. Là, récemment, on a appelé ça le cabaret des chattes sauvages.
On les salue.
Ah, on les salue très fort. Et d'ailleurs, je vais en reparler de cette tribu d'amis. Et voilà, donc j'ai un petit texte qui était en hommage à nos dingueries. Tout est de travers et il faut vivre pourtant. Nous ne tenons pas droit et pourtant nous dansons. Danse de désaccès. Nous sommes des dieux débiles et malades et nous dansons. Nous sommes les sans puces à génétique bâtarde. Nous sommes les mélangés, les sans mêlés. Nous sommes les dérangés, des dégénérés. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des messagers et nous pondons des œufs d'or brun. Faune folle aux névroses en corolle, éclatante sous le soleil de minuit, bouquet de fêlés. Nos génomes sont instables, nous mutons tout le temps. Qui, un nuage, un rocher, un corbeau, puis plus rien de connu. Nous disparaissons dans le blizzard, nous nous dissolvons, nous nous fondons dans le monde. Nous existons ailleurs quand nous sommes assis là, au bord, à côté. Nous existons en nous, c'est pourtant interdit, cette attention précieuse, cette résistance. Nos peaux sont vertes, violettes, indigo, orange. C'est très beau, ces reflets diaprés du cristal dans la lumière du soleil. C'est très beau et c'est sans importance aussi. Nous nous aimons au-delà des peaux, des sexes, des foies, des sangs. Nous crachons sur l'étiquette, en nous toutes les teintes de l'opale.
Oh là là, les teintes de l'opale. Encore plus loin que l'arc-en-ciel.
Ouais, c'est beau l'opale, c'est une belle pierre.
Oh, merci pour ce texte.
Avec plaisir.
Bon, bah j'en dégaine un personnel aussi. Ah. C'est parce qu'il y a le mot mutagène dedans.
Allez.
Ça rebondit. Mon ADN, mon ARN, gène. Je dégaine des idées mutagènes. Oxygène cathartique, j'étouffe. Bouton panique. Inspiration sous métrique, expiration lestée au brique, autistique de l'ego qui s'imbrique, tous les jours sous narcotique, jamais angélique, ça me gangrène, mais je suis pas de la mauvaise graine. Anxiogène, rends-moi mon oxygène, anxiogène c'est dans mes gènes, anxiogène, anxiogène, tu respires la haine, rends-moi mon putain d'oxygène. Anxiogène, des histoires plein les veines, des Vénus de ville, Vénus d'asile. On est les vraies reines, puissantes comme des trous noirs, des singularités. Enclavées, grandissant en bonsaï pour s'assumer, sans se buter. Les vies tordues comme l'arbre torturé, jamais légère et jamais à terre. On est la relève des idées. J'écris à l'encre de chien, je querelle la page en majuscule. Pas de calcul, y suis nul. Authentique, mes mots te foutent la trique. Mais la nique, tu verras, c'est le mot final qui fera que ta vie bascule. Anxiogène, anxiogène, on s'est fait irradier, terreur comme jeunesse de l'identité. Anxiogène, mon gang règne sur la peine, celle que tu vas là éprouver, tu le sais. les derniers mots de notre haine, c'est que l'on s'aime et que t'as pas gagné.
Mais oui, à nos tribus.
Ouais.
À nos puissances.
On enchaîne sur le morceau de la Lousse. Allez, Strange World, une très belle découverte. Vous allez adorer. On se retrouve juste après. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, et ce soir dans J'aime pas lire, nous sommes en compagnie de Wendy Martinez. C'est un régal de lecture et de musique jusque-là. et on va continuer à plonger un peu dans tes propositions.
Ça marche. Je voulais juste remercier ma pote, si elle nous écoute, Carla Segura Pentora, la grande spécialiste du surréalisme, qui m'a fait découvrir La Lousse et dans lequel j'ai plongé. Vous pouvez vraiment aller écouter tous les albums, ils sont fabuleux. Écoute, j'ai ressorti pour l'occasion une petite pièce superbe que j'avais trouvée en librairie. C'est de GB et ça s'appelle L'An 01, qui est souvent plus connu pour le film qui est sorti en 71 et qui est vraiment génial. En sous-titre, il y a marqué « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et du coup, c'était voilà, une petite BD qu'il avait imaginée, sans doute aussi en collaboration avec d'autres types de harakiri, si je dis pas de bêtises. Et après, qui a donné lieu à tout un projet collaboratif, qui a donné le film, où il a demandé aussi à des lecteurs d'Harakiri de proposer leurs idées si on arrêtait tout. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette idée de tout arrêter. Donc regardez le film si vous voulez. Il est vraiment très beau. Et donc il y a des textes dedans, il y a plein de dessins formidables. Moi, j'ai vraiment le texte BD, en fait, de GB. Et je vais vous lire deux petits passages un peu tronqués, quelques extraits. Quand je suis née, il y avait des printemps à perte de vue, dont environ 80 pour moi. Pour le reste, soit une infinité de printemps moins 80, inutile d'avoir une pensée pour eux. Quand je suis née, j'étais un point dans l'univers. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on me dit qu'il me reste à peine 20 printemps devant moi, dont les derniers fort dégueulasses. C'est presque plus humain. Aujourd'hui, tu ouvres ta fenêtre, tu te fous du mazout après les mains. Tu respires à ta fenêtre, tu t'asphyxies. Tu regardes au loin, tu vois les missiles nucléaires à l'horizon. Tu montes sur le toit avec ton violon, tu entends les bombes tomber sur le Vietnam. On te gratte la terre sous les pieds, on bétonne tes couchers de soleil. C'est une époque formidable. Plus de séduction, tous fissures, s'écaillent et puent. Plus de mirages que des horizons d'HLM. Plus de dons de soi-même possible, il n'y a rien en échange qui vaille. Et la foi dans l'avenir, plus d'avenir. Obligé de garder ta vie. Mais quoi en faire ? La défendre d'abord. Et comment ? Pas de solution. En arrêtant de bouger pour que tout s'arrête. Tout ! Il n'y a même pas de choix à faire. Tout est nuisible, mortel ou contaminé. S'arrêter et laisser pousser ses aspirations vitales. L'oubli de soi, c'est la mort de tous. Vivre pour soi, à plein bord, au présent, c'est enrichir la vie de tous. A fallu 50 siècles. A fallu tout essayer pour en arriver à cette évidence. Je suis vraiment née au bon moment. Et un autre petit texte. On arrête tout, ça veut dire on cesse de s'agiter pour essayer d'émietter d'un coup un système de vie absurde et dangereux, mais surtout pour cesser de vivre en estropiés mentaux volontaires. Lève-toi et marche, lève la tête et pense. La révolution, c'est ça. C'est douloureux au début, on a le cerveau ankylosé, mais c'est notre seul espoir de vraiment communiquer un jour quand on aura enfin quelque chose à se dire. Dans l'ordre, prendre conscience, ressentir jusqu'au malaise l'atrophie du pansoir. Arrêter de s'activer pour prendre le temps de réfléchir. Après, décider le suicide collectif ou tenter la grande aventure, inimaginable pour nos imaginations fripées.
Un son de beau texte. Ah oui, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Merci.
Avec plaisir.
J'ai trouvé dans tes textes de chansons différents types de formes d'engagement aussi dans ton regard sur le monde et ton témoignage. Que ce soit en concert, les morceaux que j'ai pu entendre, ou sur le web, on te sent concerné par le monde dans lequel tu vis, même si tu proposes aussi des choses alternatives dedans, jusqu'à une forme de science-fiction.
L'utopie comme réponse à ce que je peux pas supporter de voir et d'entendre, et en ce moment on est particulièrement dans une période qui m'obsède, tout à fait, entre les ratonnades de l'ICE, avec les meurtres qu'on suivit, entre l'Iran qui s'est révolté magnifiquement et qui s'est fait absolument massacrer, entre la Palestine. Je suis très très obsédée par l'actualité, et c'est vrai que quand je peux plus la supporter, j'ai besoin d'écrire une utopie, d'imaginer comment ce serait si on... voilà, si on était avec les potes à pouvoir décider un peu de cette vie. Et je pense que c'est pour ça là que je t'ai sorti plein de textes avec au cœur l'amour aussi. Donc après on va parler d'amour avec Bell Hooks, mais je crois bien qu'on est avec des psychopathes au pouvoir qui ne sont pas du tout capables d'amour et de compassion, et je crois qu'il faut vraiment réhabiliter cette notion là quoi, de trouver une forme d'amour de soi et de notre communauté qui puisse nous sauver. En tout cas, nous aider à vivre, et déjà dans nos tribus, en tout cas, nous aider à vivre et à s'entraider et à se soutenir.
Ce serait salvateur, il n'y a que ça. Je suis assez d'accord, très d'accord. Et ça peut faire un bon passage, pas forcément avec l'extrait que j'ai choisi, de L'homme qui rit, de Victor Hugo.
Ah oui, je pense.
Un texte sombre, mais Victor Hugo... qui revient souvent dans J'aime pas lire, et à travers notamment L'homme qui rit, écrit en 1869, publié en 1869, un texte qui frôle le fantastique et qui dénonce la mainmise jusque dans la chair, jusque dans l'âme des gens, des puissants.
La colonisation des esprits.
Mais comme il y a beaucoup de fantastique dans ce roman, beaucoup de surprises, j'ai décidé très sagement de n'en lire que le début. Voilà, c'est parti. Comme ça, vous découvrirez par vous-même, si vous le souhaitez. Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'orvietan. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, des places publiques d'Aberystwyth aux places publiques de Yedburg, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville, un marché épuisé, il passait à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante, qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils campaient l'aventure dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie d'un entrecroisement de routes, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mailles publiques, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'église. Quand la carriole s'arrêtait dans quelque champ de foire, quand les commères accouraient, béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme ou s'était dressé tout seul. Diverses gentillesses de loup qui contribuent à la recette. Surtout ne dégénère pas en homme, lui disait son ami. Le loup ne mordait jamais, l'homme, quelquefois. Du moins, mordre était la prétention d'Ursus. Ursus était un misanthrope, et pour souligner sa misanthropie, il s'était fait battleur. Pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions. De plus, ce battleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est peu. Ursus était ventriloque. On le voyait parler sans que sa bouche remuât. il copia à s'y méprendre l'accent et la prononciation du premier venu. Il imitait les voix à croire entendre les personnes. À lui tout seul, il faisait le murmure d'une foule, ce qui lui donnait droit au titre d'angastrimite. Il le prenait. Il reproduisait toutes sortes de cris d'oiseaux, la grive, le grasset, l'alouette pépie, qu'on nomme aussi la béguinette, le merle à plastron blanc, tous voyageurs comme lui. De façon que par instant, il vous faisait entendre à son gré, ou une place publique couverte de rumeurs humaines, ou une prairie pleine de voix bestiales. Tantôt orageux comme une multitude, tantôt puéril et serein comme l'aube. Du reste, ces talents-là, quoique rares, existent. Voilà, un c'est petit
beau,
extrait.
C'est magnifique.
Victor Hugo.
Il est très fort, le type.
Ouais.
Il est très très fort.
Il en glisse des choses. Dans ses longues listes descriptives.
C'est l'homme qui mord. C'est pas le loup, en tout cas.
Ouais, rien que ça. C'est déjà une façon d'être concerné tellement par la vie, quelle qu'elle soit. Et c'est une des qualités qui nous sauverait, ça. Les gens qui considèrent la vie.
C'est le roi de l'humanisme.
On lui dédie un morceau ?
Ouais.
Jeanne Moreau ?
Carrément.
On dit que je ne suis pas sage ?
Voilà, de l'album Jeanne chante Jeanne. Il ne faut pas oublier que Jeanne Moreau a aussi écrit des textes. Elle n'a pas seulement chanté les textes qu'on lui a écrits. Et ceux-là sont vraiment très très beaux.
Let's go, Jeanne Moreau.
Que mes dents sont bien aiguisées, mes amants comme des voyages m'ont très souvent dépaysé, à des rencontres, à des regards, je n'ai jamais su résister, les jeux que m'offrait le hasard, je n'ai pas su les refuser. Attaché comme les racines de l'arbre, accepterez-vous mon passé? Parfois même j'ai provoqué avec un tel détachement des aventures si compliquées que j'en oubliais mes amants. Attaché comme les racines de l'arbre, accepterez-vous mon passé? Mes doigts, mes mains, paumes ouvertes, tous les mots que j'ai murmurés, mes lèvres si souvent offertes. Attaché comme les racines de l'arbre, accepterez-vous mon passé? Nous ne dirons jamais toujours, nous irons à la découverte, le temps nous semblera très court, toutes les portes sont ouvertes, je ne j'ai visité tant de pays, je me donne à vous comme gage. si pourtant vous m'avez choisi.
La belle voix de Jeanne Moreau. Il faut accepter mon passé.
C'est ça. Tu prends tout. La femme sauvage et libre. Elle a bien chanté.
On va t'écouter dans la lecture d'un de tes textes.
Écoutez, je vous ai ramené un petit texte. Ça me fait plaisir de lire ce petit carnet qui reste bien dans les tiroirs normalement. J'écris pas mal à base d'écriture automatique. Mmh. Donc en me lâchant sans trop réfléchir. Et il y a ce texte qui est venu. Une sorte de petit conte bizarre. À l'orée du bois, elle accourt avec un plein plateau de mystères qu'elle dépose devant les chats, qui la lèchent et puis la dévorent. De toute façon, elle n'existait pas. Elle n'était qu'un frisson sur la toile d'araignée perlée de rose. Elle articule des chrysanthèmes à tout va, tout le temps, pour préciser, broche précieuse sur la peau, qu'on est encore en vie. Il n'y a rien à faire. On ne peut même plus respirer sans qu'elle pointe l'arrêt, l'apnée, la dyspnée finale. Ça finira bien par finir, qu'elle crie. Et elle part en ricanant et claudiquant dès qu'elle redevient vieille. Parce qu'elle meurt tout le temps et renaît le lendemain, et vieillit et rajeunit plus vite que tout le monde, c'est tout. Alors elle connaît déjà l'affaire, on ne peut pas la lui faire. Tu parles. Elle a déjà changé tellement de fois de peau qu'une de plus, une de moins, avec de la tristesse ou du rire, ça lui fait pas peur. Tout finira bien par passer, qu'elle répète quand elle est bébé, et elle articule déjà très bien. Tu parles, elle s'y connaît et elle glousse dans son body. Mais elle a un truc, il faut pas croire. Elle a un truc pour pas grincher. C'est, accroche-toi à la beauté. Il y en a des caisses partout, tu peux te servir, c'est gratuit. T'as qu'à y aller, mon vieux. Ça marche dans les rues, ça flotte dans l'air, ça pousse par terre, ça balbutie ici, ça tord la misère là. C'est une image, un flash, un son, un code, une horloge cassée, un silence, un cri, un enfant, un vieux, une onde, un parc, un triangle, un tricycle, une couleur, une odeur, un mot, une tripotée de mots dans un livre et on est réparé, nous voilà sauvés. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à entendre et tout est joué. Le truc gratuit. Ouvre bien les yeux, des fois qu'on a un peu de chance ce soir. Ouvre bien les yeux et les oreilles.
Merci pour ce partage d'un texte de ton cru. Du coup, je vais en partager un de mon cru aussi.
Allez,
allez, c'est parti. Après, on passera à Bell Hooks. Mm-hmm. Alors, ce texte de mon cru, je l'ai retrouvé dans des archives. J'en avais déjà lu un il n'y a pas longtemps de ces archives. Voilà. Archives de 1999 ou 2000 de Psychonautes. Avez-vous encore peur du noir? Encore peur d'être seul? Encore peur du silence, du néant, de la bizarrerie des choses, des bruits, de l'étrangeté de la vie, de la vôtre, peur des ombres et des visions fugaces, peur de la vie, peur des bruits. Rencontrez-vous encore des gens étranges qui disent des choses étranges, la peur des trucs qu'on ne peut pas dire et des sensations sans mots. Encore peur de dormir? Ou juste d'aller se coucher? Rester avec du tabac rougeoyant, à attendre le jour et la vie qui vieillit. Est-ce que ça vous arrive encore? Ou est-ce que c'est juste qu'on se tait de plus en plus? Le disque préféré n'y peut rien. Le livre n'y peut rien. Le téléphone n'y peut rien de rien. Votre télé n'y pourra rien. Peut-être un Star Trek qui peut quelque chose. Mais je parle de l'effroi. Et on est plus sûr que l'amour y puisse quelque chose. Dans ces heures terrifiantes, j'ai vraiment peur. Finalement, j'ai fumé. Beaucoup de tamien. J'ai réussi contre l'immobilité à mettre des disques. J'ai écouté Motor Psycho, puis Mobb Deep. Je me suis raisonné du plus que j'ai pu. Et j'ai attendu le jour pour aller me coucher. Et je mourrai une autre nuit.
Oh, c'est beau.
Un texte de jeunesse.
Beau, beau, beau. Beau, beau, beau. Je mourrai une autre nuit.
Bah ouais.
Mmh.
Bell Hooks.
Bell Hooks, c'est parti. Quel est le lien entre ça, mais...
On s'en fiche.
Mmh. C'est bien, on va dans tous les sens. c'est dans À propos d'amour, donc un de ses textes les plus connus de cette essayiste donc états-unienne qui est née dans les années 50 et qui a beaucoup théorisé de manière très 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 vulgarisée sur l'amour. Et je prends juste quelques mini-exemples pour dire que l'amour peut être politique aussi. Dans la conclusion de son brillant ouvrage intitulé L'art d'aimer, écrit au milieu des années 50 mais toujours d'actualité, le psychanalyste Erich Fromm rappelle courageusement que, entre guillemets, le principe sous-tendant la société capitaliste et le principe de l'amour sont incompatibles, fermez les guillemets. Il affirme que, ouvrez les guillemets, notre société est dirigée par une bureaucratie administrative, par des politiciens professionnels. Les individus sont mus par la propagande, leur but est de produire plus et de consommer plus comme fin en soi, fermez les guillemets. La primauté donnée dans notre culture à la consommation sans fin détourne notre attention de la soif de spiritualité. Nous sommes sans cesse bombardés de messages qui nous disent que tous nos besoins peuvent être satisfaits par des gains matériels. Le désir de posséder croît parallèlement au sentiment de vide spirituel. On se sent spirituellement vide, donc on essaie de combler ce vide en consommant. On souffre peut-être de manque d'amour, mais on peut toujours faire du shopping. Je passe. C'est un peu plus de 10 ans après la première publication de L'art d'aimer de Fromm que Martin Luther King Jr. a publié son recueil de sermons intitulé La force d'aimer. Le thème principal de ses discours est la célébration de l'amour en tant que force spirituelle qui unit et lie toute forme de vie. Tout comme les ouvrages antérieurs de Fromm, ses essais défendent la vie spirituelle et critiquent le capitalisme, le matérialisme et la violence nécessaire au règne de l'exploitation et de la déshumanisation. Dans une conférence de 1967 contre la guerre, King a déclaré « Quand je parle d'amour, je ne pense pas à une réaction sentimentale et faible. Je parle de cette force dans laquelle toutes les grandes religions ont vu le principe unificateur suprême de la vie. L'amour est en quelque sorte la clé qui ouvre la porte vers la réalité suprême. »
Love is all you need.
Exactement. Dans son essai intitulé « Love and Need », tiens, Merton fait l'éloge du pouvoir transformateur de l'amour. Ouvrez les guillemets. En réalité, l'amour intensifie la vie. Il est une complétude, une plénitude, un épanouissement de la vie. La courbe de la vie y atteint son pic d'intensité, un haut degré de sens et de valeur, où toutes nos possibilités créatives latentes entrent en action, où l'on se dépasse par la rencontre, l'interaction et la communion avec une autre personne. C'est pour cette raison que nous sommes venus au monde, pour faire l'expérience de cette communion et de ce dépassement de soi. On ne devient pleinement humain que lorsque l'on s'abandonne aux autres dans l'amour. Fermez les guillemets. Les enseignements de l'amour livrés par Fromm, King et Merton diffèrent de la plupart des textes récents. Dans leurs ouvrages, l'amour est toujours présenté comme une force active qui doit nous faire accéder à une plus grande communion avec le monde. D'après eux, la pratique de l'amour ne vise pas simplement à vivre une vie plus satisfaisante à l'échelle individuelle. Au contraire, ils en font l'éloge en tant que meilleur moyen de mettre fin à la domination et à l'oppression.
L'utopie qui doit tendre toute
mais oui.
action.
Mais oui. C'est fou, hein, juste l'amour.
Mais oui.
En tout cas, ce texte fait beaucoup de bien. Enfin, moi, il m'a vraiment fait énormément de bien. Et il m'a donné de l'espoir en l'humanité, dans ces temps troubles.
On ira le lire. On ne pourra absolument pas se quitter sans avoir écouté un de tes morceaux. Je ne veux pas prendre le risque. L'horloge tourne.
Allez.
On va l'écouter tout de suite.
Allez.
Wendy Martinez, Le pays imaginaire. Let's go.
La frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères, border les premières sphères, tout arriver lent leurs frères. Dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers. Des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Ils l'avaient enfin trouvé. Le
pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Sous l'atmosphère, de grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière, près d'androgynes centenaires. Oh, quatrième millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre, il n'y avait plus de mots pour. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais.
Au quatrième millénaire. On l'espère avec toi, Wendy.
On l'espère, envoyez des pensées.
Quelle belle chanson, quelle belle. J'ai hâte de se à au prochain album. En attendant, le nouvel album, il y a beaucoup de titres à écouter. Le projet avec Gemini. Des singles, des clips à regarder.
Ouais.
Un album qui est disponible en CD. Et en vinyle ?
Oui,
toujours.
Ouais, partout, ouais. Ouais.
Partout.
Enfin, vous pouvez écrire aussi sur Bandcamp et tout, et je vous l'envoie.
Sur j.mpalir, sur Instagram, nous mettrons les détails. Et les détails pour accéder à l'audioblog où vous aurez aussi la liste.
Super.
De tout ce qui a été lu et écouté. Ce soir, est-ce que tu nous reviendras pour une prochaine émission ?
Mais carrément,
il y a tant de choses à lire et à dire.
Carrément, carrément. A priori, le nouvel album sortira l'an prochain, donc je serai très très heureuse de revenir avec plein, parce que c'est très très dur de choisir des textes pour la lecture. Et moi, j'aime tellement de choses que peut-être que je te balancerai du Patti Smith du coup la prochaine fois.
Chouette, on va se régaler.
Le poème de Patti Smith.
Alors la semaine prochaine, nous recevons l'ami Yvan. Vous n'en saurez pas plus, c'est l'ami Yvan. Et ce sera une émission passionnante qui vous annoncera elle-même une autre émission passionnante le 30 mars, l'arrivée de l'émission Des voix dans la tête au sein du créneau de J'aime pas lire. On vous en saurait plus la semaine prochaine. Ça peut sembler compliqué, mais ce sera toujours de la lecture. Dans l'intervalle, on va dire au revoir à Wendy Martinez, qu'on est très heureux d'avoir reçu.
Merci de l'invitation, merci à Nico pour le son, merci, bravo de faire ces émissions-là.
Merci beaucoup, et on écoute en bonus un morceau de Sly Apollinaire. qu'on admire beaucoup aussi. Ça faisait partie de son album Cyclo Part 1 et le morceau s'appelle Mars from the Vines. C'est parti. À bientôt.
À bientôt.